Chapitre 4. Le service de Dieu en un jour de ruine. Au chapitre 3, l'apôtre a très complètement prédit la terrible condition de la profession chrétienne dans les derniers jours, et de plus, il a rappelé aux croyants les riches provisions que Dieu a faites, afin qu'ils puissent être parfaitement accomplis en toute bonne œuvre, au jour où le mal abonde. Après avoir présenté la ruine de la profession chrétienne et les ressources des fidèles, Paul, dans ce chapitre 4, donne des instructions spéciales pour le service du Seigneur dans un jour de défaillance générale. L'expérience nous dit que dans un jour où le mal augmente dans la profession chrétienne, ainsi que la faiblesse parmi le peuple de Dieu, le serviteur peut facilement se décourager et perdre le cœur au service. D'où l'importance de ces instructions dans lesquelles, au lieu de laisser l'état triste et désespéré de la chrétienté être une excuse pour l'apathie du serviteur, l'écrivain utilise cet état pour inciter à un service plus sérieux. Versets 1 à 8. Citation de l'Écriture. Je t'en adjure devant Dieu et le Christ Jésus, qui va juger vivants et morts, et par son apparition et par son règne, prêche la parole, insiste en temps et hors de temps, convainc, reprend, exhorte avec toute longanimité et doctrine. Car il y aura un temps où ils ne supporteront pas le saint enseignement, mais, ayant des oreilles qui leur démangent, ils s'amasseront des docteurs selon leur propre convoitise, et ils détourneront leurs oreilles de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, endure les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, accomplis pleinement ton service. Car, pour moi, je sers déjà de libation, et le temps de mon départ est arrivé. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais m'est réservée la couronne de justice que le Seigneur juste juge me donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui aiment son apparition. Fin de citation. L'apôtre commence cette portion de son instruction en présentant les raisons de son appel aux croyants à persévérer dans leur service pour le Seigneur. Il parle avec toute solennité comme devant Dieu et le Christ Jésus, les grands observateurs de notre conduite et de la position que nous prenons, et il nous presse pour faire le service au vu de ces trois grands faits. Premièrement, Christ est le juge des vivants et des morts. Il est l'arbitre du chemin que nous empruntons et de notre état sur ce chemin. En outre, la condition de la profession chrétienne est telle que le grand nombre est inconverti et se dirige vers le jugement, soit comme homme vivant quand Christ apparaîtra, soit comme faisant partie des morts devant le grand trône blanc. Il nous convient donc d'avertir les hommes du jugement à venir et de leur indiquer le Sauveur. Deuxièmement, Paul nous encourage à continuer dans notre service par la grande vérité de l'apparition de Christ. La meilleure traduction est « et par son apparition », faisant de l'apparition un second fait, distinct du jugement des vivants et des morts. Il ne parle pas de l'enlèvement, mais de l'apparition de Christ pour régner, car la récompense pour le service est toujours liée à l'apparition. La parole est « Voici, je viens bientôt, et ma récompense est avec moi, pour rendre à chacun selon que sera son œuvre. » Apocalypse 22, verset 12. Troisièmement, nous sommes encouragés au service par son règne. Toute âme sauvée par la prédication de l'Évangile ajoutera à la gloire de Christ quand il viendra pour régner et être glorifié dans ses saints. Il y a donc toute motivation pour que le serviteur persévère dans son service, que cette motivation soit liée au jugement des méchants, à la récompense du serviteur ou à la gloire de Christ. Après avoir donné les raisons de son appel, l'apôtre définit la mission. Si les hommes sont responsables vis-à-vis de Dieu, alors prêche la parole, insiste en temps et hors de temps. Si Christ est sur le point de juger, alors convainc et reprend ceux qui vivent dans une voie qui appelle le jugement. Si les saints vont être récompensés à l'apparition de Christ, alors exhorte avec toute longanimité et doctrine. Le serviteur doit prêcher la parole. Ce n'est pas simplement l'évangile pour le pécheur, mais la parole de Dieu à la fois pour le pécheur et pour le saint. Il y a aussi le besoin d'insister en urgence dans la prédication, ainsi que de prêcher en tout temps. La parole de Dieu est pour tous en tout temps. La conviction et la répréhension peuvent être nécessaires, à la fois parmi les saints et parmi les pécheurs. Mais ce ne peut être qu'en prêchant la parole, car ce n'est que la parole qui produit la conviction. Nous pourrions chercher à convaincre et à reprendre par nos propres paroles et arguments, mais nous ne ferons que découvrir que nous irritons et produisons du ressentiment. La répréhension, pour être efficace, doit être basée sur la parole de Dieu. Pour ceux qui désirent se courber devant la parole et accepter qu'elle convainque et reprenne, il y a la parole d'encouragement. Quelle que soit la forme que le service prenne, il doit être exercé avec toute longanimité et selon la vérité ou la doctrine. La parole soulèvera assurément l'opposition de la chair et demande de la longanimité de la part du serviteur. Et la seule réponse efficace à l'opposition est d'être dans la doctrine ou vérité de l'Écriture. Au premier verset, le serviteur de Dieu a regardé au-delà de la période présente, et à la lumière de ce qui est à venir, il insiste sur l'urgence du service. Maintenant encore, il regarde en avant, mais vers la fin de la période chrétienne, et utilise les conditions épouvantables qu'on trouvera parmi les professants du christianisme comme une nouvelle motivation pour l'activité dans le service. Il a déjà parlé de faux docteurs qui s'introduisent dans les maisons. Il parle maintenant des gens eux-mêmes. Que les docteurs soient défaillants ou pas, il viendra un temps où les gens ne supporteront plus la saine doctrine, car ils auront des oreilles qui leur démangent. Et ils s'amasseront des docteurs selon leur propre convoitise. Ce n'est pas une description de païens qui n'ont jamais entendu la vérité, mais de la chrétienté où les hommes auront entendu l'évangile, mais ne le supporteront plus. Ils n'abandonnent pas toute profession de christianisme, car ils s'amassent des docteurs, mais ce sont des docteurs qui n'interfèrent pas avec la satisfaction de leur convoitise mondaine. Ils interféreraient s'ils prêchaient la vérité. Que des compagnies de chrétiens professants se choisissent un docteur est entièrement étranger à l'Écriture, et cela montre combien la chrétienté s'est écartée de l'ordre de Dieu quant à son assemblée. Le résultat de ce désordre est que trop souvent, le docteur choisi n'est qu'un conducteur aveugle conduisant des aveugles, et si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans la fosse. Matthieu 15, verset 14. C'est ce qui arrivera quand les hommes, se détournant de la vérité, se tourneront vers les fables. Si donc la condition de la chrétienté est devenue si épouvantable que ceux qui professent le christianisme ne supportent plus le saint enseignement, qu'ils suivent leur convoitise et se tournent vers les fables, il convient au serviteur d'être sobre en toutes choses, ayant son jugement formé par la vérité et ne laissant pas son esprit être influencé par les choses mauvaises et les fables de la masse professante. Nous avons déjà été exhortés à endurer les souffrances de l'Évangile, à prendre notre part dans les souffrances comme de bons soldats de Jésus-Christ, et nous avons été avertis que tous ceux qui veulent vivre pieusement dans le Christ Jésus seront persécutés. Chapitre 1, verset 8, chapitre 2, verset 3, chapitre 3, verset 12. Nous sommes maintenant en plus avertis que nous devons être prêts à endurer les souffrances à cause des choses mauvaises de la chrétienté. Ainsi, les fidèles doivent être prêts à souffrir à cause de l'Évangile, pour l'amour de Jésus-Christ en raison de la piété chrétienne et en vue des choses mauvaises du jour. En outre, aussi mauvais que soit le jour actuel et aussi longtemps que continue le jour de grâce, l'homme de Dieu, quel que soit son don, doit poursuivre son œuvre d'évangéliste. L'abandon de la vérité par la masse, avec la plupart des soi-disant églises adonnées à la mondanité et aux fables, ne fait que rendre plus urgent que l'homme de Dieu continue son œuvre d'évangélisation et accomplisse pleinement son service. L'œuvre du Seigneur ne doit pas être faite à moitié. Nous devons chercher à achever parfaitement ce qu'il nous a donné à faire. Le serviteur de Christ fait maintenant référence à son départ comme une autre motivation à servir. La fin de sa vie de dévouement et en conséquence la persécution de la part du monde, était si proche qu'il pouvait dire « Je sers déjà de libation ». Il parle de son départ comme le temps de sa libération. Pour lui, quitter cette scène était une libération d'un corps qui le gardait absent de Christ, mais il le présente comme une raison pour que Timothée accomplisse pleinement son service. Combien souvent, depuis ce jour, l'enlèvement d'un serviteur dévoué a été utilisé par le Seigneur pour ranimer ceux qui sont laissés, pour servir activement. Si toutefois l'Église allait être privée de la conduite active de l'apôtre, son exemple reste pour notre encouragement. Ici, donc, Paul, à la veille de son départ, regarde en arrière sur son chemin comme serviteur et en avant vers le jour de gloire, quand son service recevra sa brillante récompense. Regardant en arrière, il peut dire « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi ». Dans les jours de Paul, la foi était déjà assaillie de tous côtés, et elle l'est encore davantage aujourd'hui. À l'extérieur du cercle chrétien, elle était combattue par les ritualistes juifs et les philosophes des nations. À l'intérieur de la profession chrétienne, il y avait ceux qui s'étaient écartés de la foi, 1 Timothée 6, verset 21, et d'autres qui étaient réprouvés quant à la foi, 2 Timothée 3, verset 8. En présence de ces attaques de l'intérieur et de l'extérieur, Paul pouvait dire « J'ai combattu le bon combat ». Il avait combattu pour la foi et il avait gardé la foi. La foi est plus que l'évangile de notre salut. Elle a son centre en Christ et embrasse les gloires de sa personne et la grandeur de son œuvre. Elle comprend toute la vérité du christianisme. L'apôtre combattait avec hardiesse pour la foi, refusant d'y laisser entrer quoi que ce soit, d'où que ce soit. Il ne laissait aucune fausse charité interférer avec sa défense sans compromis de la gloire de la personne et de l'œuvre de Christ. Ayant combattu le bon combat et achevé la course et gardé la foi, il pouvait regarder avec une grande assurance vers le futur et dire « Désormais m'est réservée la couronne de justice ». Il avait marché dans le chemin de la justice, chapitre 2, verset 22, et suivi l'instruction de la justice, chapitre 3, verset 16. Et maintenant, il attendait de revêtir la couronne de justice. En outre, la couronne de justice sera donnée à l'apôtre par le Seigneur, le juste juge. L'apôtre avait maintenu les droits du Seigneur dans le jour de son rejet. Il recevra la couronne de justice dans le jour de sa gloire. L'homme avait donné une prison à l'apôtre. Beaucoup d'entre les saints l'avaient déserté, et certains s'étaient opposés à lui. Mais cela lui importait peu d'être jugé d'un jugement de saint ou d'homme. Pour lui, le Seigneur était le juge. 1 Corinthiens 4, versets 3 à 5. Il ne dit pas que le jugement des saints sur la fidélité de sa course n'était rien, mais comparé avec le jugement du Seigneur, cela importait peu. Trop souvent, nos jugements les uns des autres sont faussés par des personnalités mesquines et des considérations égoïstes. Le Seigneur est le juste juge. Pour la troisième fois au cours de l'Épître, l'apôtre fait référence à ce jour-là, chapitre 1, versets 12 et 18, chapitre 4, verset 8. Dans toutes les souffrances, les persécutions, les désertions et les insultes auxquelles il avait à faire face, ce jour-là brillait devant lui, le jour de l'apparition du Seigneur. Combien de choses que nous ne pouvons pas comprendre ou débrouiller, combien de manques d'égards et d'insultes devant lesquels nous devons nous taire aujourd'hui. Mais nous pouvons trouver un soulagement à toutes ces choses en les remettant au Seigneur, le juste juge, en vue de ce jour-là, quand il mettra en lumière les choses cachées des ténèbres et manifestera les conseils des cœurs, et alors chacun recevra sa louange de la part de Dieu. 1 Corinthiens 4, verset 5. En outre, pour notre encouragement, il nous est dit que la couronne de justice n'est pas simplement réservée à un apôtre ou à un serviteur dévoué, mais à tous ceux qui aiment son apparition. Nous pourrions penser que la couronne de justice est réservée à une grande activité dans l'œuvre du Seigneur, ou seulement à ceux qui sont en première ligne comme conducteurs du peuple de Dieu. Mais la parole ne dit pas que la couronne est pour ceux qui travaillent ou pour ceux qui sont éminents, mais pour ceux qui aiment son apparition. Il est vrai que le grand propos de cette portion de l'épître est d'encourager le serviteur à travailler, mais qu'il veille à ce que son travail soit gouverné par l'amour. Aimer son apparition implique que nous aimons celui qui va paraître, et, en l'aimant, nous aimons à penser au jour où celui qui est maintenant rejeté et méprisé des hommes viendra pour être glorifié dans ses saints et admiré en tous ceux qui auront cru. En plus, aimer son apparition suppose que nous marchions dans le jugement de nous-mêmes, car nous lisons « Quiconque a cette espérance en lui, l'espérance d'être comme Christ quand il paraîtra, se purifie comme lui est pur. » 1 Jean 3, verset 3. Versets 9 à 18. Citation de l'Écriture. « Empresse-toi de venir bientôt auprès de moi, car Démas m'a abandonné, ayant aimé le présent siècle, et il s'en est allé à Thessalonique, Crescens en Galatie, Tite en Dalmatie. Luc seul est avec moi. Prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est utile pour le service. Or, j'ai envoyé Tychique à Éphèse. Quand tu viendras, apporte le manteau que j'ai laissé en Troade chez Carpus et les livres, spécialement les parchemins. Alexandre, l'ouvrier en cuivre, a montré envers moi beaucoup de méchanceté. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Garde-toi aussi de lui, car il s'est fort opposé à nos paroles. Dans ma première défense, personne n'a été avec moi, mais tous m'ont abandonné. Que cela ne leur soit pas imputé. Mais le Seigneur s'est tenu près de moi et m'a fortifié, afin que par moi la prédication fût pleinement accomplie et que toutes les nations l'entendissent. Et j'ai été délivré de la gueule du lion. Le Seigneur me délivrera de toute mauvaise œuvre et me conservera pour son royaume céleste. À lui la gloire, au siècle des siècles. Amen. » Fin de citation. Dans les derniers versets de l'Épître, nous avons un beau tableau des grâces de Christ, des affections chrétiennes et des intérêts du Seigneur qui unissent ensemble les saints individuellement. Cela est précieux en tout temps, mais combien plus dans un jour de faiblesse et de défaillance où ceux qui craignent le Seigneur parlent souvent l'un à l'autre. Malachie 3, verset 16. Paul avait déjà exprimé son désir de voir Timothée, son cher bien-aimé, chapitre 1, verset 4. Maintenant, en vue de son départ imminent, il supplie Timothée de venir rapidement. Il désirait d'autant plus voir Timothée qu'il avait souffert la perte d'un compagnon de travail. Démas avait abandonné l'apôtre, ayant aimé le présent siècle. Il n'est pas dit que Démas avait abandonné Christ, mais il avait trouvé impossible de continuer avec un représentant si dévoué de Christ et en même temps de s'accommoder avec le présent siècle. Il fallait abandonner l'un ou l'autre. Hélas, il a abandonné Paul et choisi le monde. D'autres étaient partis, sans doute pour le service du Seigneur. Luc seul était avec lui. Ce compagnon fidèle dans ses travaux actifs restait avec lui dans ses derniers moments, et l'apôtre se plaît à mentionner son amour dévoué. Paul désire spécialement que Timothée amène Marc. Il y avait eu un temps où Marc s'était détourné de l'œuvre, et ce fut la raison pour laquelle l'apôtre refusa par fidélité de le prendre dans un second voyage au service du Seigneur. Il jugeait que ce n'était pas utile. Ce manquement de la part de Marc avait évidemment été jugé, et donc tout ressentiment était ôté. Il n'est plus donc fait allusion à ce manquement. Si cela avait été la seule référence à Marc, nous n'aurions jamais entendu parler d'un quelconque manquement de sa part dans le service. Paul l'avait déjà recommandé à l'assemblée des Colossiens. Colossiens 4, verset 10. Il désire maintenant sa présence et relève spécialement que, dans le domaine même où il avait manqué, ce serviteur restauré serait des plus utiles. « Car, dit l'apôtre, il m'est utile pour le service. » Tychique, qui avait apparemment été auparavant envoyé par l'apôtre en Crète, Tite 3, verset 12, a été maintenant envoyé à Éphèse. C'était quelqu'un qui désirait servir sous les directions du serviteur de Christ. L'homme naturel pourrait s'étonner que, dans cette importante mission pastorale, l'apôtre s'arrête pour parler d'un manteau et de livres. Nous oublions que le Dieu qui a pourvu à notre bénédiction éternelle n'oublie pas le moindre de nos besoins temporels. Le manteau que nous portons et les livres que nous lisons ne lui sont pas indifférents. Dans notre folie, nous pourrions penser que ces choses sont trop basses pour qu'il y prenne garde. C'est à la suite de cette manière de penser que ces choses mêmes, l'habit que nous portons et les livres que nous lisons, deviennent nos plus grands pièges. Il est parlé d'Alexandre non pas comme enseignant l'erreur, comme Hyménée, ni comme aimant ce présent siècle comme Démas. Il est plutôt un ennemi personnel actif de l'apôtre, et, étant animé d'une inimitié personnelle, Alexandre s'opposait aux paroles de l'apôtre, quoi que dit celui-ci. De telles personnes existaient au jour de l'apôtre, et il y en a, hélas, encore dans la profession chrétienne, qui résistent à ce qui est dit, non pas parce que c'est faux, mais par inimitié vis-à-vis de la personne qui parle. Conscients de l'iniquité de telles personnes, nous pourrions rapidement ne plus être sur nos gardes et nous laisser aller à répondre à la chair par la chair. Le serviteur du Seigneur ne rend pas mal pour mal, ni outrage pour outrage. Paul ne dit pas « Je vais essayer de m'occuper de lui selon ses œuvres ». Il avertit toutefois Timothée de se garder de lui. Il y a, hélas, dans la profession chrétienne, des gens contre lesquels il est nécessaire d'avertir les saints. L'apôtre avait trouvé en son jour, comme beaucoup d'autres depuis, que le chemin se rétrécit à mesure que nous approchons du but. Il a dû dire, alors qu'il était accusé devant les puissances de ce monde, « Personne n'a été avec moi, mais tous m'ont abandonné ». Ce traitement qui paraît être sans cœur et lâche n'a produit aucun ressentiment dans le cœur de l'apôtre. Au contraire, il produit sa prière en leur faveur, que cela ne leur soit pas imputé. Si tous les autres défaillent et nous abandonnent, les paroles du Seigneur resteront toujours vraies. « Je ne te laisserai pas, je ne t'abandonnerai pas ». Paul a ainsi trouvé, dans le jour où il était déserté par les saints, que le Seigneur s'est tenu près de lui et l'a fortifié. Si, toutefois, le Seigneur donne de la force, ce n'est pas de la force pour écraser nos ennemis, ou de la force pour nous délivrer de circonstances éprouvantes, mais une force spirituelle pour lui rendre témoignage en présence de ses ennemis. L'apôtre peut donc dire « Le Seigneur s'est tenu près de moi et m'a fortifié, afin que par moi la prédication fût pleinement accomplie et que toutes les nations l'entendissent. » Par les récits de ce que Paul prêchait, nous savons que la proclamation était la proclamation du pardon des péchés par cet homme, le Christ Jésus, l'homme ressuscité dans la gloire. Acte 13, verset 38. Si Paul a reçu de la puissance pour prêcher Christ, le Seigneur lui-même a exercé sa puissance pour délivrer son serviteur du danger immédiat. Il peut donc dire non pas « je me suis délivré », mais « j'ai été délivré de la gueule du lion ». En outre, l'apôtre peut regarder en avant avec confiance et dire « le Seigneur me délivrera de toute mauvaise œuvre et me conservera pour son royaume céleste ». Comme le psalmiste peut dire « l'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme ». Psaume 121, verset 7. Le royaume céleste peut en effet être atteint par la mort en martyr, mais l'âme sera préservée de tout mal. Avec ce royaume céleste en vue, le fidèle serviteur de Dieu peut terminer son épître avec un éclat de louange vers celui qui, en dépit de toutes les désertions des saints, de toute la puissance du lion et de toute mauvaise œuvre, préservera les siens pour son royaume. À lui la gloire, au siècle des siècles. Amen. Versets 19 à 22. Citation de l'Écriture. Salut Prisca et Aquilas et la maison d'Onésiphore. Éraste est demeuré à Corinthe et j'ai laissé Trophime malade à Milet. Empresse-toi de venir avant l'hiver. Eubulus et Pudence et Linus et Claudia et tous les frères te saluent. Le Seigneur Jésus-Christ soit avec ton esprit. Que la grâce soit avec vous. Fin de citation. Paul ajoute une salutation finale pour deux saints, Prisca et Aquilas, qui avaient été associés avec lui dans ses premiers travaux, acte 18, verset 2, et qui lui étaient restés fidèles dans ses derniers jours. Il pense aussi encore à la maison de celui qui n'avait pas eu honte de sa chaîne. De Timothée 1, versets 16 à 18. Avec l'intérêt que nous ne pouvons que prendre dans les déplacements, les travaux et la santé des fidèles serviteurs du Seigneur, Paul, en son jour, rappelle le fait qu'Éraste était demeuré à Corinthe et que Trophime avait été laissé malade à Milet. Apparemment, la puissance miraculeuse de guérison qui, au cours de son témoignage, avait été utilisée de façon si frappante par l'apôtre, n'a jamais été utilisée pour la guérison d'un frère ou d'un ami. Comme quelqu'un a dit, en règle générale, les miracles étaient des signes pour les non-croyants, non pas un moyen de guérison pour la maison de la foi. Aucun détail concernant ses enfants n'est trop petit pour être considéré par notre Dieu et Père. Paul avait déjà fait référence au manteau et au livre, il pense maintenant à la saison. Timothée devait s'empresser à venir avant que l'hiver n'ajoute aux difficultés de son voyage. Trois frères et une sœur sont mentionnés par nom comme saluant Timothée ensemble avec tous les frères, une preuve non seulement de l'amour et de l'estime dans lesquels Timothée était tenu, mais aussi des soins de l'apôtre à promouvoir l'amour parmi les saints. De façon très belle, Paul termine l'épître à Timothée avec le désir que le Seigneur Jésus-Christ soit avec son esprit. Combien souvent nous pouvons être justes en doctrine et en principe, et même en conduite extérieure, et pourtant tout est perturbé parce que quelque chose ne va pas dans notre esprit. Si le Seigneur Jésus est avec nous, en esprit, nous manifesterons dans nos paroles et dans nos voix l'Esprit de Jésus-Christ. Philippiens 1, verset 19. Timothée et les saints qui étaient avec lui avaient besoin de la grâce. C'est pourquoi l'apôtre termine son épître avec le désir que la grâce soit avec vous. Puissions-nous aussi, dans ces temps plus difficiles, savoir être forts dans la grâce qui est dans le Christ Jésus, pour que nos esprits soient gardés malgré tous les efforts de l'ennemi qui cherche à gâter notre témoignage en faisant agir la chair. Nous devons avoir une fidélité sans compromis dans le maintien de la vérité, combinée avec la douceur de Christ, afin que la voix de la vérité ne soit pas blasphémée.